Mais les gars, là, en arrivant dans les écouteurs, j'écoutais Confession Nocturne de Diam Sevita et je me suis dit, c'est carrément en rapport avec le thème de notre émission. Enfin, vous pensez pas ?
Bah pourquoi ?
Et parce qu'en fait, Diam, dans la chanson, elle est littéralement en train de révéler à Vita l'imposture qu'elle est en train de subir. C'est-à-dire en quoi son mec lui ment depuis je sais pas combien de temps.
C'est ultra deep. Ouais, t'as raison. Diam, ça dit même au mec, tu fais le miskin, mais tu viens briser mon ami. Tu vois, tu fais le miskin. Il y a un truc de simulation.
Tu vois, il le fait.
Tu vois, il agit de cette manière. Et tu viens briser mon ami, elle dévoile la souffrance.
Non mais c'est ouf.
Ouais, il a fait semblant, il s'est fait cramer quoi.
Et exactement. Voilà, il s'est fait prendre au piège. C'est le serpent qui se mord la queue.
Exact.
Il s'est retrouvé pris au piège dans son imposture en fait. C'est fou.
Ah ouais.
Du coup,
l'imposture a été dénoncée, fini.
Mais c'est ça. Mais du coup, en fait, on se rend compte que les imposteurs sont un peu partout, quoi. Bah oui. On est entouré d'imposteurs.
Mais est-ce qu'on serait pas tous quelque part imposteurs ? Enfin, est-ce que vous vous êtes déjà pas senti imposteur ?
Ah, le syndrome de l'imposteur.
Ah, le fameux.
Je sais pas vous, mais moi, c'est je lutte contre. Hein.
Bienvenue dans Radio Pium. Votre dose d'opium philosophique. Vous nous écoutez sur Radio Campus Paris, sur le 93.9 FM.
L'homme refuse le monde tel qu'il est, et pourtant, il n'accepte pas de lui échapper.
Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique, qui définisse la femme en tant que telle.
Cet amour-passion est effectivement un amour qui souffre.
Vous écoutez Radio Pium et aujourd'hui, on va parler imposture. Alors avant d'aborder le sujet et de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même préciser que l'équipe de Radio Pium s'est agrandie et on a désormais, pour accompagner Maëlle et moi-même, Anthony et Élise.
Bonjour.
Bonjour.
Voilà, donc on est ravis d'accueillir dans la team. Afin d'éviter en fait qu'ils ne se sentent comme des imposteurs au sein d'un studio qui leur est étranger, on a décidé de combattre le mal par le mal en décortiquant tous ensemble la notion d'imposture, de sorte à ce qu'aucun syndrome de l'imposteur ne puisse émerger au sein de cette équipe. Et donc, qu'est-ce que l'imposture, direz-vous ? Eh bien, on va se poser la question maintenant avec Maëlle qui va aborder l'étymologie de l'imposture.
En fait, le mot imposture, il vient du latin, enfin d'un verbe latin imposi, qui veut dire imposer. Donc on voit déjà que l'imposture, c'est le fait d'imposer littéralement une posture, une façade, une attitude, pour tromper autrui. C'est ça qui est présupposé. Donc à partir de ces données, on pourra se demander qu'est-ce que l'imposture, dans ces différentes conceptions, est-ce que c'est un stratagème ?
Est-ce que l'imposteur ne serait pas dupe de sa propre imposture ?
Et d'ailleurs, peut-on penser une société sans imposture ?
Et en même temps, est-ce que c'est souhaitable en fait une société sans imposture ? Est-ce que l'imposture n'est pas elle-même nécessaire d'un point de vue éthique, ou parfois d'un point de vue artistique ? Est-ce qu'il n'y a pas un intérêt à l'imposture finalement ?
Donc, on voit ici que l'imposture est un concept qui contient plein de facettes différentes et on va commencer tout de suite avec moi qui vais poser les bases du concept d'imposture en parlant de ces différentes acceptions dans la littérature. L'imposture en littérature, elle évoque d'abord le théâtre parce que l'imposture c'est le piège et c'est... Le quiproquo, en fait. La définition d'imposture, c'est d'abord le fait de mentir sur son identité et généralement tromper ou profiter de quelqu'un. L'imposture, il use généralement de simulacres pour travestir sa nature. Dans ce cas-là, dénoncer une imposture consistera à lever le voile sur cette nature et à déceler les mécanismes qui sont mis en œuvre. On peut vraiment parler de mécanismes, en fait, parce que l'imposteur, il va mettre en œuvre différents moyens pour tromper les autres et arriver à ses propres fins. Donc on voit déjà qu'il y a quelque chose d'assez machiavélique dans le fait d'être un imposteur. Généralement, ces moyens convergent vers la constitution d'une nouvelle identité, comme on l'a dit, et peuvent être autant matériels, à travers notamment les masques, les costumes, qu'immatériels, notamment avec une rhétorique trompeuse, mensongère ou encore des techniques de manipulation. La figure de l'imposteur, elle est très importante dans la littérature d'intrigue, parce que l'imposture, c'est ce qui va constituer un obstacle dans le schéma narratif, c'est ce qui va créer un élément perturbateur et donc rendre l'histoire intéressante. Et c'est généralement parce que les fins de l'imposteur sont rarement bienveillantes qu'elles s'opposent à celles du héros. Il y a alors donc une confrontation qui s'esquisse grâce à l'imposteur. Et alors le dénouement satisfaisant, du moins classique, dépendra de la capacité du héros à démêler les pièges de l'imposteur et d'arriver à ses propres fins, généralement bienveillantes. Parce qu'un héros, c'est généralement bienveillant. Voilà, dans l'acception classique du terme. Je vais vous parler d'une pièce que généralement les gens connaissent parce qu'ils l'étudient au collège, et c'est peut-être même la première pièce de théâtre qu'on étudie, c'est Knock, de Jules Romain. Et quand Knock est affecté pour la première fois en tant que médecin à Saint-Maurice, c'est-à-dire un village où personne n'est malade, il est assez déçu, il est assez dégoûté, on n'a pas eu foi en lui, on l'a vraiment mis quelque part où il servirait à rien. Et c'est à ce moment-là, via la déception, qu'il va décider de devenir un charlatan et de devenir un médecin charlatan dont le but sera de gagner de l'argent et de la notoriété pour se venger de cette douloureuse affectation qui vit très mal. Et en fait, cette pièce met en scène beaucoup de procédés comiques par lesquels Knock va tromper ses patients, autant par la gestuelle que par le langage. Il va mettre en place des néologismes médicaux qui n'ont pas vraiment de sens. Il va les tromper, il va tenter de les impressionner. Et tous ces patients qui ne sont pas malades sont assez simples sur le plan psychologique. Le seul vrai personnage, en fait, c'est Knock. Et là, on voit déjà que ce qui s'esquisse ici, c'est une critique de l'autorité du médecin. L'autorité intellectuelle du médecin face aux patients, aussi crédules les uns que les autres. Et lui, Knock, il aura une capacité à les manipuler. Et ce sera vraiment très très simple pour lui. Et ce que l'auteur dénonçait ici, en fait, c'était la soumission de la société moderne à l'idéologie et à l'autorité, notamment de la médecine, mais en général, des professions intellectuelles. Il y a une phrase qui est très importante dans la pièce et qui ressort, notamment dans les médias au moment de la réception de la pièce, qui est « Les gens bien portants sont des malades qui s'ignorent ». Et ça, c'est vraiment la rhétorique trompeuse dont on parlait tout à l'heure, le moyen immatériel de manipuler les gens afin d'arriver à ses propres fins. Et ici, Knock, son objectif, c'est de s'enrichir et il y arrivera très bien.
Mais donc, par ce que tu viens de dire, tu veux dire que l'imposteur ne cherche que des fins matérielles?
Alors, on peut envisager le fait que l'imposteur puisse rechercher autre chose que de l'argent ou de la notoriété. On va prendre l'exemple maintenant du roman, en parlant notamment de l'amour et du désir. Et je vais vous parler d'une figure romanesque qui est celle de Vautrin, chez Balzac. C'est vraiment l'imposteur littéraire expert par excellence, parce qu'en fait, il nous trompe vraiment à chaque fois. Il est présent dans 3 romans de Balzac. Dans Le Père Goriot, il est démasqué comme tueur en série à la fin du roman. D'ailleurs, son surnom, c'est Trompe la Mort. Donc, on voit déjà avec son surnom que c'est quelqu'un qui aura toujours la capacité de s'échapper et à fuir les capacités des enquêteurs et de la police. Il parvient à s'enfuir. Dans le roman suivant, donc Illusion perdue, on a donc 1000 pages sur une intrigue qui ne semble pas concerner Vautrin. Et à la fin du roman, il y a un prêtre espagnol qui débarque et qui sauve le héros du roman. Et on se rend compte que ce n'est autre que Vautrin, qu'on n'avait pas vu pendant tout le roman et qui là débarque costumé en feignant d'avoir un accent espagnol. Et donc là, Vautrin va finalement commencer à protéger ce fameux héros. Et le roman suivant, qui s'appelle Splendeur et misère des courtisanes, c'est sur leur relation. Et à ce moment-là, Vautrin, il est vraiment au centre de l'intrigue et c'est là qu'on va pouvoir vraiment analyser son comportement. Dans Splendeur et misère des courtisanes, lui, son grand crime, c'est d'inciter Esther, donc l'amoureuse du héros, à se prostituer pour que le héros puisse vivre sa vie convenablement, donc Lucien. Ce qui est important de remarquer ici, c'est pas seulement sa capacité à tromper, c'est que c'est un être de désir. Et en fait, il y a une érotique perverse de l'imposture qui va s'instituer dans la trilogie balzacienne. En fait, ce Vautrin, il est d'abord amoureux d'Eugène de Rastignac, dans Le Père Goriot, puis de Lucien de Rubempré. Mais la différence entre les deux, au-delà d'être des jeunes hommes qui débarquent de la province à Paris, c'est qu'il y en a un qui est naïf, l'autre qui ne l'est pas. Et c'est Lucien qui est naïf, qui va tomber entre les mains de Vautrin. Et en fait, dans toute cette histoire, c'est le caractère transgressif de l'homosexualité du personnage qui va s'exprimer dans sa marginalité, sa criminalité. Autrement dit, Vautrin, c'est un criminel pervers, et ces deux dénominations renvoient clairement au statut de l'homosexuel de l'époque. Je ne sais pas quelle est l'intention de Balzac derrière ça, si c'est une vraie dénonciation ou si c'est juste un constat, parce que ça reste un analyste, hein, c'est le médecin des passions, quoi. Donc on ne sait pas vraiment ce que lui en pense directement. Mais en tout cas, l'homosexualité de Vautrin, elle apparaît comme un mal-être et un obstacle à l'épanouissement de ses désirs. Et cette logique du désir mimétique, on la retrouve chez René Girard, qui est le philosophe du désir. Et en fait, dans son œuvre « Mensonges romantiques et vérités romanesques », il va décrire ce triangle du désir. Et ce triangle implique d'abord un sujet qui désire, un objet désiré et un médiateur. Là, en l'occurrence, dans ce qu'on a décrit dans le roman « Splendeur et misère des courtisanes », c'est que Vautrin organise toute la vie de Lucien. lui aménage une vie confortable. Et en fait, Vautrin, ce qu'il désire, c'est la vie de Lucien, à travers Lucien. Et c'est pour ça qu'il deviendra aussi problématique avec Lucien, parce qu'ils ont quand même quelques années d'écart et qu'il est clairement manipulateur. En fait, la vie normale et de bonheur de Lucien, c'est la seule chose qu'il veut vraiment. Et on voit ici, grâce à ces exemples de littérature, que l'imposture est justifiée par un manque d'être et un manque d'accomplissement personnel.
Ce que je trouve intéressant, Maëlle, avec ce que tu viens d'évoquer, notamment par la figure donc balzacienne de cet homme de religion qui est Herrera, c'est que l'imposture, ça constitue une tromperie par l'acte, par le discours. Lorsque Lucien de Rubempré est sur le point de se suicider, l'abbé Herrera arrive et lui promet tous les fastes de la vie parisienne pour en retour dans ce monde de l'apparaître. L'imposture, ce serait donc cette attitude par laquelle je trompe autrui sur ma personne, sur le caractère que je m'attribue. Il y aurait donc une confusion entre l'être et le paraître. L'être, ça pourrait renvoyer à cette essence, à celle de l'individu, à ce donné ontologique premier, fondamental, qui se trouverait éventuellement subsumé sous cette imposture, qui serait, elle, du côté de l'apparaître et de la sphère de cette apparition à l'autre. Il y aurait une subsomption à cette réalité ontologique première, on substituerait un masque, celui du personnage que j'utilise pour apparaître aux autres. Et on pourrait se demander, mais en fin de compte, quelle est la relation entre cette identité première et une imposture, s'il n'y aurait pas une coïncidence de l'un à l'autre, ou bien si on est dupe, en fin de compte, de notre propre imposture. L'imposture, elle apparaît d'abord comme un palliatif, il me semble. Elle vient combler une réalité en manque d'être, une déficience ontologique. Et donc par l'imposture, je me fais autre, d'où naît une scission. C'est d'ailleurs ce que dénonce Pascal, ou du moins ce contre quoi il met en garde, dans le premier des trois discours sur la condition des grands. Il y a une expérience de pensée qui est très intéressante, qui permet, selon Balzac, d'entrer dans cette véritable connaissance de notre condition. Imaginez-vous donc un homme qui est jeté sur une île déserte par une tempête, île dont les habitants sont en peine de trouver un roi. Et il se trouve que cet étranger ressemble fort, à la fois de corps et de visage, à ce roi-là. Et il est pris pour le roi de ce peuple. Et dans un premier temps, il ne sait pas vraiment quel parti prendre, puis se résout à suivre sa bonne fortune et reçoit les honneurs et les respects qui lui sont dus et se laisse traiter en roi. Sauf qu'il a bien conscience, en réalité, de cette imposture-là. L'imposteur se sait tel. D'une part, il agit en roi, mais de l'autre, il sait très bien qu'il n'est pas roi, a conscience de son imposture et du fait qu'elle n'est en réalité que le concours d'un favorable hasard et de circonstances qui l'ont conduit jusqu'à cette position-là. Tout n'est qu'apparence, en réalité. L'imposteur trouve sa place dans l'illusion, il y a une absence de réflexivité et l'illusion peut aller jusqu'à s'ignorer elle-même, on pourrait dire. Pascal écrit, en parlant donc de ce roi complètement fantoche, que, je cite, « Il cachait cette dernière pensée, donc sous-entendu celle de sa véritable nature, et découvrait l'autre, donc celle de la royauté. C'était par la première qu'il traitait avec le peuple, et par la dernière qu'il traitait avec soi-même. » Donc il s'agit d'être vigilant de cette forme de précarité ontologique d'un individu qui est divisé entre deux réalités.
Mais du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que l'imposteur est dupe de sa propre imposture, au vu de ce que tu viens de dire?
En effet, on pourrait se demander si ce palliatif qui était l'imposture pourrait pas devenir une forme de supplétif. On supposerait donc moins une coexistence de l'imposture avec un fond ontologique premier, mais bien plutôt une forme de rivalité au travers de laquelle l'imposture l'emporte. Le sujet apparaît aux autres, aussi bien qu'à lui-même, au travers de son personnage et par son masque. Il est prisonnier d'une boucle d'hyper-réflexivité de laquelle il ne parvient pas à s'extraire. Et cette dualité, c'est celle du schisme, d'une conscience, par laquelle la réalité n'est que faux-semblant. En bref, tout n'est plus qu'artifice pour l'imposteur. Pensez-là, elle pourrait rejoindre celle de la double postulation que Sartre attribue à Baudelaire, donc dans son essai Baudelaire. Et donc, le sujet serait le support de deux représentations différentes. L'une, admettons, méliorative et l'autre péjorative, dans une dimension évidemment morale. On pourrait penser à cette phrase de Baudelaire, donc dans Mon cœur mis à nu, qui est son journal, où il écrit « Il y a dans tout homme, à toute heure, deux postulations simultanées, l'une vers Dieu, l'autre vers Satan. L'invocation à Dieu ou spiritualité est un désir de monter en grade, celle de Satan ou animalité est une joie de descendre. » Ici, l'individu apparaît comme traversé donc, par cette tension qui résulterait de deux forces opposées et aboutirait à cette forme de destruction de ce sujet en tant que donnée ontologique premier. le sujet c'est d'en être écartelé, qui finit en fin de compte par s'extérioriser. Il ne vit plus que dans l'élément du dehors. Ces différentes manifestations extérieures, alors aussi bien des actes langagiers, des actes physiques, lui permettent de s'offrir au regard étranger dans cet élément du dehors. Et plus encore, il se présente à ses propres yeux sous le signe de la dissociation de cette identité. C'est un dédoublement qui l'amène à se faire objet pour lui-même, et donc à se parer, à se peindre, et à s'auto-contempler quelque part, non plus comme ce qu'il pouvait être, mais comme un personnage. Et donc, en vivant dans l'élément de l'extériorité, l'imposteur devient prisonnier de sa propre facticité.
Mais qu'advient-il quand l'imposture éclate et qu'il la démasque à ce moment-là?
En effet, à la fois dedans et dehors, le sujet est objet et témoin pour lui-même. Et tel est le cas du personnage de Kean, personnage éponyme de la pièce réécrite par Sartre, mais à l'origine de Dumas. En effet, il y a une très bonne définition de ce qu'est l'acteur. Alors, c'est le personnage du prince qui la donne. Pour lui, l'acteur n'est qu'un mirage. Et c'est par la naissance d'un sentiment amoureux que Kean va s'extraire de l'imposture et de cette dissymétrie entre le joué et le vécu. À l'acteur en scène 5, il se demande, et quelquefois je me demande si les sentiments vrais ne sont pas tout simplement des sentiments mal joués. Kean est prisonnier de son rôle et ne parvient pas à s'en extraire. Il y a cette auto-réflexivité qui l'emprisonne. Je m'explique. Il est personnage, il joue Othello, mais Kean ne lui dit pas qu'il est lui-même Kean en train de jouer Othello, et donc un autre personnage qui jouerait Kean jouant Othello, et ainsi de suite. Il n'y a jamais de vérité. C'est toujours une impossibilité de rejoindre son propre fond. Donner l'imposture, on pourrait se dire que les hommes, quelque part, se bercent d'illusions et se complaisent dans cela. À l'acte 2, Kean montre bien la nécessité. Il dit qu'on ne joue pas pour gagner sa vie, qu'on ne joue pas non plus pour se connaître, non pas pour la vérité, mais parce qu'on deviendrait fou si l'on ne jouait pas. Mais l'imposture, en réalité, s'avère vide. Elle n'a pas de réalité, elle est sans fond, elle est néant. Kean dit de lui-même qu'il est un pistolet chargé à blanc, je cite, « il fait du bruit mais pas de mal ». Tant que pistolet chargé à blanc, ses actes se trouvent pris dans une facticité de laquelle il ne parvient pas à s'extraire, ils n'ont aucune portée, le retentissement est creux. À la différence, bon, on pourrait penser au prosateur de Sartre dont les mots sont des pistolets chargés, lorsqu'il parle il tire. Ce vide ontologique est fort décevant parce qu'on s'enferme dans l'imposture, mais on ne parvient pas vraiment à accepter la réalité telle qu'elle est. Elle-même est décevante. Il y a une déception, la réalité, bon, s'avère bien pauvre. Comme Baudelaire, on pourrait préférer des corps de théâtre à des paysages, étant donné que ces choses sont infiniment plus près du vrai. Kean passe d'un soleil peint sur une toile, celle de l'arrière-scène, à un astre véritable qui est la morne lumière selon lui. C'est un petit peu cette forme de morcellement que connaît Sartre lui-même, le jeune Sartre, et dont il témoigne dans les mots. En effet, Sartre prend son courage à deux mains, bon, il sort de la bibliothèque de ses grands-parents, se rend jusqu'au Luxembourg et cherche à jouer avec ses pères. Sauf que malheureusement, il est exclu. Il écrit « Je n'en revenais pas de me découvrir par eux, ni merveille ni méduse, un gringalet qui n'intéressait personne. » Bon, bah, retour dans les jupes de sa mère. Et en fin de compte, il y a une tension entre une autonomie prétendue et une hétéronomie qui est pourtant réelle. L'essence se trouve démentie par l'existence. On pourrait se demander si on ne pourrait pas dépasser un tel constat, si l'imposteur, lorsqu'il se démasque, se trouve condamné à se trouver fragmenté dans les raies d'un personnage lui-même sujet à une dynamique de morcellement, ou bien si, ni palliatif ni supplétif, l'imposture pourrait être envisagée comme ce qui complète, ce qui vient s'additionner à ce donné ontologique premier, fondamental, non plus dans un rapport de subsomption, mais plutôt de création. Et donc on réhabiliterait l'imposture, en fin de compte. On se dirait qu'elle n'est pas vraiment un masque, mais plutôt ce par quoi le sujet accède à sa propre singularité. Et tout ça nous dirige vers ce qu'on pourrait qualifier d'un néo-existentialisme, peut-être de rat de bibliothèque éventuellement, parce que ça implique la lecture. Et c'est Marielle Massé qui nous en parle dans « Façon de lire et manière d'être », c'est l'introduction. Et donc de même que Sartre, en fin de compte, lit les aventures de Pardaillan et ce rêve héros, de même que dans la recherche, celui qu'on pourrait appeler Marcel s'engage tout entier dans un effort existentiel et littéraire, eh bien la lecture consisterait en des formes qui seraient des forces textuelles qui permettent au sujet, pardon, se créer, d'en venir à une forme de civilisation de son existence. Marielle Massé parle de possibilité d'être et de promesse d'existence et d'un effort de civilisation, d'un horizon presque, on pourrait dire, d'une stylistique de l'existence. Ce que Balzac affirme dans la théorie de la démarche en disant qu'en fin de compte, cet homme de la modernité, il est privé d'une définition substantielle de lui-même et pourtant doit répondre à l'injonction de créativité qui diffuse tout en risquant de donner une idée particulière de lui-même. Et en fin de compte, tout ça, ça se résout dans le mouvement, ça se résout dans le style, dans l'apparaître, dans non plus une imposture mais plutôt un personnage. Par exemple, la parole, c'est quoi? C'est de la pensée en action. Bref. Comme disait Sartre, je ne cesse de me créer, je suis le donateur et la donation. Ça, c'est dans les mots, la première partie également. L'imposteur, en fin de compte, n'est plus imposteur, ou du moins n'est plus imposteur à lui-même. Il est plutôt personnage apparaissant aux autres, dans l'élément du dehors.
Maintenant, c'est l'heure d'une petite pause musicale. Nous allons écouter Dance Little Liar d'Arctic Monkeys.
Spotless.
Et après avoir écouté Dance Little Liar de Arctic Monkeys, on va donner la parole à Élise, qui va s'intéresser au rapport entre imposture et société.
Effectivement, nous vivons en société, et ça c'est très important à prendre en compte quand on parle de l'imposture, puisqu'en fait on forme une collectivité, et donc cette collectivité est régie par des règles, des codes, des lois, qui sont clairement énoncées, ou qui sont plus symboliques, plus subtiles entre guillemets. Et donc le problème vient de ce que ces codifications sont forcément uniformisées, puisqu'elles sont relatives à cette collectivité qui forme un tout, qui forme une unité. Or, en tant qu'individu, nos schémas comportementaux sont a priori uniques et tous différents. Et donc c'est par là, je pense, qu'on peut comprendre l'origine de l'imposture en société. C'est-à-dire que les codes et les règles qui sont parfois complètement, comme je l'ai dit tout à l'heure, informels, c'est-à-dire que ça peut aller de être le la plus beau, belle, le la plus apprécié, celui, celle qui plaira le plus, etc., passent aujourd'hui beaucoup par les réseaux sociaux. Qui sont en fait le lieu d'une invention de soi. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que, sans s'en rendre compte, on a des rapports qui sont complètement banalisés à ces interfaces et en fait à ce type d'existence où on en vient parfois à se créer des faux noms, à se créer des avatars, etc. Et là, on peut avancer qu'en fait, c'est une forme d'imposture qui se crée à travers les réseaux sociaux et qui est complètement normalisée, entre guillemets. Maintenant, ce qui est intéressant, donc ça c'était un petit exemple pour introduire toute la question qui va venir se poser, c'est justement le fait de se demander si on peut penser une société sans imposture, c'est-à-dire se demander s'il y a vraiment une consubstantialité, c'est-à-dire qu'on peut considérer que l'un peut exister sans l'autre, ou est-ce que forcément les deux sont liés. Par là, je veux dire qu'à partir du moment où on évolue dans un environnement social, on se plie forcément à des codes qui nous force à développer des comportements qui font que l'on surjoue, qu'on feinte, qu'on cache, etc. Qu'on prend un comportement d'imposteur ou d'impostrice. Dans la pensée de Foucault, il y a quelque chose de très intéressant puisqu'il avance que l'imposture vient de l'incorporation des normes que la société impose à chaque individu, voulant à tout prix coïncider avec ces mêmes normes. Alors là, l'idée de norme est très très intéressante puisque la norme, c'est ce qui est conforme à la majorité des cas. Et là, donc, dans cette idée de conforme, on peut finalement faire un lien entre imposture et conformisme. On peut justement comprendre que l'imposture vient d'une absorption des valeurs. L'imposteur ou l'impostrice, en fait, se présente comme une éponge, finalement, des normes qui l'environnent, des normes de son environnement social. Donc, dans le conformisme, il y a cette idée de forme. Et pareil, encore une fois, elle est très très intéressante ici. La forme, le fait de pouvoir prendre toutes les formes possibles, c'est, à mon sens, une des caractéristiques premières de l'imposteur ou de l'impostrice. Et donc, dans cette idée de forme, il y a aussi cette idée de masque, donc de costume, pour jouer un jeu un peu théâtral ou un jeu social. Et ici, il y a une expression qui m'a particulièrement marquée et qui me semble vraiment très bien s'appliquer à la question de l'imposture en société, qui est celle de jouer son rôle. Effectivement, donc on a tous des costumes pour jouer à différents jeux sociaux, que ce soit auprès de la famille, des amis, dans des interactions professionnelles, etc. Et pourtant, on sait bien tous, presque intimement, que ces masques ne sont pas forcément ce qu'on appelle notre personnalité, ou en tout cas qu'il y a plus à tout ça, qu'il y a plus derrière. Mais ça pose quand même une question cruciale d'identité, puisque si on se pose vraiment la question, qui est-on quand on ne joue plus aucun rôle ? Quelle réponse pouvons-nous donner finalement ? Ah, c'est pas pour rien que Balzac finalement a intitulé la comédie humaine la comédie humaine, puisque vraiment il entend esquisser donc des types sociaux avec tellement de finesse et de justesse qu'on finit par se dire que l'identité d'un personnage dans cette comédie sociale est réellement cette caricature, ce type préconçu qui finalement n'est que ça et qu'il n'y a rien derrière. On vient justement à parler de cette question un peu intime de l'imposture, qui est le sentiment d'imposture, ou plus communément appelé le syndrome de l'imposteur, que tout un chacun peut éprouver. Qu'est-ce que c'est le sentiment d'imposture ? C'est finalement la peur, avant tout, d'être démasqué, et surtout l'angoisse de se rendre compte qu'en dehors du masque social, il n'y a peut-être rien, ou en tout cas pas grand-chose. Ici, je pourrais parler d'un film sorti à la fin du XXe siècle, en 1994, The Mask, qui est plutôt évocateur, en tout cas dans son titre. C'est l'histoire d'un homme qui n'a pas trop confiance en lui, qui n'intéresse personne, un peu un loser, comme on pourrait dire communément, qui un jour découvre un masque, donc là l'image est quand même assez évidente, qui devient d'un coup quelqu'un de magnétique, à qui tout réussit.
Du coup, c'est la métaphore du rôle social.
Tu veux dire que c'est pas dissimulé ?
C'est ça, et que c'est clairement mis en évidence. C'est peut-être pour montrer l'absurdité en fait de l'existence de ce rôle social.
C'est justement le fait de surjouer qui est poussé à l'extrême et qui devient finalement complètement absurde en fait.
Du coup, il y aurait une forme de surexhibition, enfin, dans le sens où l'imposture généralement c'est ce qu'on cherche à cacher, ou du moins ce qu'on cherche à taire, en se faisant passer pour ce qu'on est, mais non pas en tant qu'imposture. Tandis que là, le masque, c'est quelque chose qui est très voyant, qui est là, que tout le monde peut voir. Je n'ai pas vu le film, j'avoue. Mais
C'est un énorme masque vert.
D'accord. Il a un costume jaune aussi, non ?
C'est ça.
D'accord, mais c'est bon.
Ouais, du coup, il y aurait presque une forme de revendication dans le fait de porter ce masque-là, et genre le fait de se réapproprier un peu l'imposture et d'en faire quelque chose de caricatural et d'amusant. Parce qu'en vrai, ce film est très drôle quand on se penche vraiment dessus. Et du coup, c'est intéressant de se dire que l'imposture peut devenir... une sorte d'outil comique aussi, assez puissant.
Bah oui, c'est le principe même, je pense, d'un masque. Et puis, du masque au théâtre, je crois que tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, Maëlle. C'est justement, toujours dans le jeu, quoi. C'est toujours cette idée-là.
Et ce qui est assez marrant aussi, c'est le fait que plus c'est grotesque, et moins ça nous choque. Genre le fait de l'assumer, en fait, ça va devenir quelque chose que la personne impose tellement aux autres que ça devient... Enfin, il impose en fait ce qu'il est et sa normalité, et donc on est obligé de l'accepter. Il n'y a pas de demi-mesure, quoi. Et ça, c'est super intéressant aussi, à étudier en société. Les personnes qu'on dit souvent, enfin, on peut dire parfois que certaines personnes sont des personnages parce que en fait, elles ont une personnalité et une manière de se présenter au monde qui est tellement forte et qui en impose tellement. Elles ont un masque tellement bien ficelé, quoi, qu'on finit par y croire, en fait.
Mais ça, justement, c'est dans les cas extrêmes, entre guillemets. Et c'est vrai que finalement, en société, disons que si on admet des degrés d'imposture, il y a forcément des degrés très faibles d'imposture où tout le monde, si vous voulez, peut être sujet à ça. Et disons qu'aujourd'hui, un truc que je remarque pas mal dans une société comme la nôtre, c'est qu'on est sans arrêt en train de se vendre. On est tout le temps en train de se valoriser, se vendre. Je sais pas... dans des entretiens d'embauche, sur nos CV, et même dans des cadres plus personnels ou privés de séduction. Moi, je sais pas, quand vous allez à un date, un truc comme ça, vous n'allez pas montrer les pires côtés de vous, si on peut dire ça comme ça. On va forcément jouer notre rôle de pour plaire, quoi. Et moi, je pense que le terme « se vendre », ici, il n'est pas du tout anodin quand on parle d'imposture et quand on parle d'imposture et de société, puisque... il s'applique assez bien à la logique globale de notre système social aujourd'hui, qui est capitaliste.
Mais du coup, on a l'impression qu'être dans l'imposture, ça nous enferme dans une vision qui est quand même très pessimiste. Et est-ce qu'à partir de là, on ne pourrait pas se demander si l'imposture pourrait s'avérer profitable à celui qui s'avère être imposteur ?
Eh bien, si, justement. Alors là, je vais avancer quelque chose qui peut être un petit peu contre-intuitif. Mais on pourrait avancer en fait que l'imposteur ou impostrice est une victime des normes sociales. Alors je m'explique, en fait les normes, comme je l'ai plus ou moins un peu évoqué avant, ne sont pas nécessairement profitables à tous, parce que tout le monde justement ne peut pas coïncider avec elles. Chacun est différent. Et en fait c'est là où l'imposture naît, dans le sens où elle devient un moyen d'adaptation pour un individu à un environnement qui en demande trop à cet individu. C'est-à-dire que... on demande à une personne d'être ce qu'elle n'est pas et ce qu'elle ne peut pas être en l'occurrence. Mais elle lui demande illégitimement. Donc en fait, là, l'imposture devient une sorte de solution, un antidote, un remède à cette oppression, entre guillemets, si on peut dire, des conventions sociales.
Du coup, moi, j'ai un peu décidé, là, dans cette dernière partie, de me faire l'avocat du diable, en fait. Je me suis dit, nuançons le tableau que nous venons de peindre en redorant un peu le blason de notre ami l'imposture. Et oui, vous m'avez entendu. L'imposture pourrait être considérée comme notre bonne amie. Parce que, en fait, je suis persuadée qu'elle nous accompagne au cours de nos vies et qu'elle nous aide parfois à limiter les dégâts. Notamment dans certaines interactions sociales. Et après toutes les chroniques que l'on vient d'entendre, on a le droit de se demander bah, qui de vous, de moi, de nous, n'a pas été au moins une fois dans sa vie un imposteur ou une impostrice. Bon, du coup, je vous l'accorde, là, on a envie de se dire que c'est pas du joli, qu'on est des êtres malhonnêtes, des gros menteurs. Mais c'est sûrement que cela a un intérêt. Et si dissimuler notre véritable nature, la travestir, était aussi salvateur. Et oui, l'imposture, au-delà de la critique moraliste dont elle fait l'objet, pourrait bien, dans certaines situations, apparaître comme une nécessité. Dès lors, ne devrions-nous pas effectuer une réévaluation morale du concept d'imposture ? Doit-on toujours condamner les imposteurs et les impostrices ? Et en soi, est-ce nécessairement une mauvaise chose d'en être un ou une ? C'est la question que j'ai décidé de me poser, du coup, dans cette dernière partie. Et d'abord, je voudrais souligner la portée éthique de l'imposture. Alors ok, ça paraît pas évident comme ça, parce que, comme les autres l'ont souligné, un imposteur, c'est d'abord quelqu'un qui se cache derrière des mensonges, qui change d'identité, voire même qui en usurpe une autre. Du coup, l'imposture, c'est avant tout un masque de, un manque de sincérité, et un masque, certes, une dissimulation, une forme de simulacre de réalité. Et d'ailleurs, Lévinas le souligne, dans Totalité et Infini, parce qu'il considère que l'imposture, c'est une rupture du lien éthique établi entre deux individus, parce que l'imposteur ou l'impostrice fait défaut à la confiance que autrui lui a accordée. Et en cela, il ou elle n'honore pas la responsabilité qu'il a envers l'autre, qui est d'être entièrement honnête et transparent sur ce qu'il ou elle est. Mais cette transparence éthique, c'est-à-dire cette honnêteté sans limite envers autrui, n'est-elle pas, en plus d'être impossible, parfois source de désagrément ? Et a-t-on toujours besoin d'être sincère envers autrui ? Pour des raisons éthiques, parfois aussi, on pourrait avoir l'impression qu'il est mieux de mentir sur qui on est, de bâtir une imposture. On pourrait alors mentir pour de bonnes raisons. Peut-on donc monter une imposture intentionnellement et moralement bonne ? Et en cela, ce type d'imposture pourrait donc viser à avoir des conséquences positives. Et donc on va se pencher là sur la conception de Schopenhauer dans Le monde comme volonté et comme représentation, qui établit une distinction assez intéressante entre le mensonge égoïste et le mensonge altruiste. Et donc en fait ici il y a l'idée que le mensonge n'est pas nécessairement motivé par des intentions malveillantes. L'idée que la sincérité totale en fait n'est pas possible au quotidien et que parfois il est nécessaire de mentir, peut-être même parfois pour le bien de soi, pour son bien et pour le bien des autres. Et donc en fait... Schopenhauer constitue une sorte de philosophie utilitariste qui se concentre d'abord sur les conséquences des actions en tentant de les anticiper et en fait le but c'est de maximiser le bonheur en fait. Le mensonge peut servir ici en fait à prévenir des dommages graves ou à promouvoir le bien-être global. Le but de Schopenhauer ici c'est de nous montrer que le mensonge peut avoir une portée positive et parfois vraiment une concession nécessaire. Il est nécessaire de mentir. Et donc en fait, on peut rapporter cette analyse du mensonge au concept d'imposture, perçu comme un mensonge en fait au sujet de qui l'on est. Alors on peut dire parfois qu'on est obligé en fait d'être un imposteur ou une impostrice et que cela peut même faire de nous quelqu'un d'altruiste. J'aimerais en fait mettre en valeur un exemple particulier qui est l'exemple des justes pendant la Seconde Guerre mondiale, qui sont les personnes donc en France qui ont caché les juifs chez eux, qui ont fait en sorte de les protéger du régime nazi tant bien que mal. Et donc en fait, on pourrait imaginer que la manière dont ils ont caché les juifs, c'était aussi, ça s'accompagnait de tout un simulacre et de toute une mise en scène en fait sociale qu'ils devaient incarner en société. Ils devaient mentir sur qui ils étaient en fait et monter une forme d'imposture en cachant leur empathie envers les juifs et leur opinion sur le régime nazi et sur les déportations qui étaient en cours. Et donc en fait on pourrait dire qu'ils ont construit une imposture purement ici altruiste dans le but de protéger en fait des personnes persécutées par un régime totalitaire et antisémite. Et donc, on pourrait dire ici que l'imposture est purement altruiste et éthique. Donc. Et on pourrait donc dire, par là, que l'imposture que les justes ont construite est éthiquement nécessaire, finalement, parce qu'elle a sauvé la vie de centaines de personnes.
Et dans ce cas-là, dans des cas aussi extrêmes, on peut considérer que l'imposture, elle est éthique dans de rares cas, non ? Est-ce que ça peut s'imposer comme une loi générale de définir une imposture éthique pour d'autres cas que ceux-là ?
Je dirais que, certes, l'imposture éthique a ses limites. Mais en fait, j'aimerais bien souligner le fait aussi que l'imposture n'est pas nécessairement négative. Et que, au-delà de la conception éthique que l'on peut en avoir, l'imposture peut aussi, peut aussi être artistique, se révéler, en fait, avoir une portée esthétique et artistique particulière qu'il est nécessaire de souligner, je pense. Parce qu'en fait, l'imposture n'est pas nécessairement une manipulation. Et elle n'est pas nécessairement non plus subie. Parce que, en fait, elle peut aussi être conscientisée par la personne qui est un imposteur ou une impostrice, et être même conscientisée, entre guillemets, par la personne qui, même si, bon, je vais faire un néologisme, mais la personne qui est impostée, entre guillemets, donc la personne qui, entre guillemets, subirait l'imposture. Et donc, bon, là, ça paraît assez étonnant comme point de vue, mais on va s'intéresser à la conception de Judith Butler dans Troubles dans le genre, qui défend l'idée, bon, d'abord que le masculin et le féminin sont déconstruits et que les individus incarnent des normes de genre spécifiques en mimant des actes qui sont propres à ces dernières, à ces normes. Et donc, par exemple, s'habiller d'une certaine manière, parler d'une manière qui sera rapportée au féminin, au masculin. Et donc, en fait, tous ces actes, ça constitue une performance de genre, ce qui ferait, en fait, dans l'idée que nous sommes tous plus ou moins des imposteurs et des impostrices. Et donc, en soi, on aurait ici affaire à une forme d'imposture qui n'est pas conscientisée, d'imposture qu'on subit, qu'on mime, en fait, et qu'on se passe de génération en génération. Mais du coup, en fait, y a des outils que Butler déploie aussi dans cet ouvrage qui sont assez intéressants, parce qu'elle parle du fait qu'on peut subvertir, en fait, ces performances de genre, qu'on peut reprendre les commandes de l'imposture et faire en sorte de s'émanciper, de dépasser, en fait, ces normes de genre, de dépasser ces cadres dans lesquels on nous a placés, et donc, en fait, de reprendre le contrôle sur l'imposture qui nous a imposé par la société, finalement. Donc, en fait, selon Butler, il existe des formes d'imposture volontaires, entre guillemets. Donc là, j'extrapole, hein, c'est pas ces mots directs, mais en fait, la manière dont on peut subvertir le genre, ça pourrait apparaître, en fait, comme des formes d'imposture volontaires, qui subliment la réalité, qui la transforment en quelque chose de positif. Et justement, c'est en cela que c'est assez intéressant. On pourrait se demander, et si parfois on pouvait se laisser volontairement imposter, si parfois on se plaisait, en fait, s'il n'était pas possible aussi de se plaire à contempler des personnes qui nous mentent sur ce qu'elles sont, qui elles sont, juste pour le plaisir des yeux, juste pour le spectacle, le divertissement. Et en fait, plus encore, et si ce divertissement, en fait, cette imposture à laquelle on assiste, si elle ne pouvait pas être, en fait, nécessaire dans sa capacité à sublimer la réalité. Et donc, c'est en ça que la conception de Butler est très intéressante, parce qu'en fait, elle va s'intéresser à la culture drague, et donc en quoi l'art du drague, qui est l'art, donc, en fait, d'incarner le genre opposé au nôtre, donc de performer un genre qui n'est pas le nôtre, en quoi l'art du drague apparaît comme une manière, voilà, de subvertir les normes de genre, et donc de se réapproprier, justement, l'imposture qui nous a imposée par la société, de vraiment, en fait, une manière de sublimer, finalement, et de transformer cette imposture en quelque chose d'artistique. Et c'est très, très intéressant à étudier, puisque, en fait, quand on va assister, en fait, à des shows de drague, les spectateurs ont conscience que les personnes qu'ils ont en face d'eux, c'est en quelque sorte des imposteurs ou des impostrices. C'est-à-dire que la drag queen, c'est l'impostrice par excellence. On sait très bien qu'elle incarne un genre qui... Enfin, en tout cas, quand c'est une drag queen qui est dans la vie de tous les jours un homme et qui incarne, qui se drague et qui est une drag queen, donc qui incarne un personnage féminin, on sait que dans la réalité et son rôle social, le rôle social qu'elle occupe en société, c'est un rôle social masculin. Et donc en fait, c'est super intéressant parce que elle joue devant nous un genre qui n'est pas le sien. Elle incarne des caractéristiques, et donc c'est là que ça fait un peu écho à ce que tu disais par rapport au théâtre, Maëlle. Elle incarne des caractéristiques et une dimension théâtrale particulière, elle a vraiment un rôle particulier. Et nous, en fait, en tant que spectateurs, on se plaît à regarder le fait que... Enfin, à observer le spectacle et à observer cette imposture, et on s'en amuse presque. Et en fait, à travers la réappropriation, parce que c'est une véritable réappropriation de la part de la drag queen, se réapproprie des codes qui ne sont en théorie pas les siens, à travers la réappropriation d'une imposture qui n'est pas la sienne, et donc elle recrée, en fait, une nouvelle imposture, la réappropriation de codes de genre qui lui sont opposés, entre guillemets, elle construit une imposture qui est une imposture artistique et une imposture consciente, finalement, et dans laquelle tout le monde s'embarque, et c'est ça qui est super intéressant.
Alors, dans ce moment-là, parce que moi aussi, en faisant mes recherches sur Knock et le théâtre, j'ai constaté qu'il y avait pas mal d'essais qui avaient été écrits sur l'art du théâtre en tant que tel, et comme c'était toujours une imposture vis-à-vis du public.
Ouais.
Et que le public, bah, le sait, donc c'est pas grave. Et à ce moment-là, étant lévinassienne, c'est la seule imposture par la voie artistique que je pourrais considérer comme éthique. Ouais. Moi, je me dis que c'est vraiment la voie une imposture éthique.
Et en même temps, l'art n'est pas nécessairement éthique.
Non, non, pas forcément lui-même, mais disons que si on parle d'imposture dans la représentation artistique, alors là, d'accord. Après, les artistes peuvent être de leur côté des imposteurs.
Mais justement, voilà. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a plein de conceptions, plein de personnes, notamment Oscar Wilde, qui défendent l'idée que l'art est nécessairement une imposture et que, c'est nécessairement une imposture et que c'est une imposture nécessaire. Et donc en soi, ça reste une imposture. Et on ne peut pas défaire cela, enfin, pas défaire l'art de la notion d'imposture en elle-même, parce que c'est constitutif de l'art, quoi.
Mais est-ce qu'à ce moment-là, l'imposture, tu la définirais comme l'artifice ? Par exemple, tu parles d'Oscar Wilde qui identifie l'art à l'imposture. Mais est-ce que donc l'imposture, ce serait cette façon dont on recrée la nature, le réel du moins, on tombe dans une espèce d'univers de fantasmagorie, de tout ce qui rêve de l'irréel, du contrefactuel du moins ?
Moi, j'aurais plus tendance à dire que c'est, encore une fois, une sorte de modification de la réalité, mais pas d'imitation.
D'accord.
Tu vois, de sublimation de la réalité. Et d'ailleurs, moi, je vois vraiment le drag. Encore une fois, je reviens au drag, mais le drag comme... Enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment ça, en fait. Parce que les drag queens, c'est quand même des personnages caricaturales. C'est pas des hommes qui se transforment en femmes. C'est des hommes qui se transforment en une vision caricaturée de la femme. Et à la fois caricaturée et à la fois artistique, en fait. Parce qu'elles ont des maquillages magnifiques, des tenues resplendissante, et du coup on pourrait dire que l'art en général c'est un peu ça, c'est cette capacité à créer une imposture à magnifier en fait l'art de l'imposture peut-être, et à créer un artifice certes, mais pas une imitation de la réalité.
Oui, tout à fait, je suis d'accord, on tombe dans une sorte d'art de l'imposture. Par exemple, je pense aux drag queens qui justement, j'imagine, ont tout ce qui relève de... Donc un personnage qui leur est propre, mais tout un univers aussi qui tourne autour de ce personnage-là. Qu'elle travaille, qu'elle cultive, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être drague et d'avoir aucune identité, mais bien au contraire d'incarner tout un univers de représentation qui s'attache à ce même personnage.
Exactement.
Donc quelque chose qu'elle cultive.
Exactement, donc c'est exactement un peu la conclusion à laquelle je voulais arriver finalement. Que la réappropriation de l'imposture en elle-même, ça peut nous conduire justement, ça peut conduire à la création d'un art de l'imposture. Et ça peut conduire à une forme de sublimation artistique de l'imposture. Et c'est ça qui est ultra intéressant. Et c'est en ça qu'on peut nuancer en fait la vision qu'on avait jusque-là de l'imposture, qui était une vision plutôt négative. Là, on peut se dire qu'il y a, en instrumentalisant l'imposture d'une manière ou d'une autre, par la voie artistique particulièrement, on peut transformer en fait l'imposture en quelque chose à portée positive, à portée distrayante, divertissante, et voire même transcendante dans un sens, puisque ça permet de dépasser le réel et de créer une sorte de nouvelle forme de réalité.
C'est intéressant ce que tu disais sur le fait de justement dépasser les impostures, en tout cas de genre, par une nouvelle imposture qui serait d'ordre artistique, puisque finalement ce serait dépasser l'imposture par l'imposture. C'est le serpent qui se mord la queue.
Et je crois qu'on a notre conclusion. Dans ce cas-là, on pourrait peut-être imaginer que l'imposture est salvatrice.
Vous venez d'écouter Radio Pium, diffusé un dimanche sur 4 à 20h sur Radio Campus Paris, 93.9 FM. Au micro, c'était Maëlle Bouvray, Marine Varem, Élise Le Pennec, moi-même, Antoine Dominici, et Tibor Deschard à la réalisation. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer et autres. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse opium.radiopium@gmail.com si vous avez des questions à nous poser. Merci de nous avoir écoutés et à dans un mois.
On va prendre un pastis, là, c'est bon.